Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Nous sommes le mercredi 3 avril, c'est l'émission de cinéma. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, alors c'était hier, non, Jess Franco est mort. Steven Soderbergh annonce qu'il ne fera plus de films.
C'est fini, mon film du 7e art.
Ouais. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? De petites choses, Marine. Enfin,
en ce lieu sacré de Divergence FM, Monseigneur Vincent, je vous parlerai de La religieuse de Guillaume Niclou.
Et puis toi, Manu, alors deux films, mais diamétralement opposés.
Ah oui, je vais faire le grand écart donc, entre G.I. Joe, Conspiration, et puis un film grec, Alps, du réalisateur de Canine, hein, qui avait eu un certain succès, critique du moins à l'époque.
Effectivement. Et puis moi, je serai le seul cohérent, en fait, hein, puisque je vais aller voir deux documentaires. Il y a La Maison de la Radio, on écoutera une interview de Nicolas Philibert. Et puis, je suis allé voir... Alors, en même temps, c'est un documentaire, mais qui n'a rien à voir avec celui de Nicolas Philibert. C'est Samsara de Ron Fricke, ou Frick, je ne sais plus comment. Enfin, je préfère dire Fricke, parce que Frick, enfin, je ne sais pas. Ça sonne mal. C'est Cinérama.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie?
Sur Divergence FM.
G.I. Joe, Conspiration.
Ouais.
Alors, ouais. J'étais avec Vincent, d'ailleurs, et mon fils. Hein, c'est vrai.
Il m'a emmené.
Je les ai emmenés tous les deux. Bon, autant l'avouer tout de suite, j'ai bien vu le premier, G.I. Joe, c'est Le Réveil du Cobra, réalisé par Stephen Sommer, et Trou Noir. En fait, je me souvenais d'absolument plus rien avant de rentrer dans la salle, même pas le fait que Bruce Willis était de la partie. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai eu du mal à relier les personnages en rentrant donc dans le cinéma de ce deuxième opus des aventures de la fine équipe des G.I. Joe. Je me suis concentré un peu sur la nouvelle coqueluche du cinéma d'action US, soit Channing Tatum. Malheureusement, il meurt au bout de 15 minutes. Et pendant tout le reste du film, j'attendais qu'il réapparaisse pour une raison qui m'échappe encore. Enfin, pour moi, c'était le personnage principal du premier et je croyais qu'il allait revenir. Finalement, c'est bien la seule surprise de ce blockbuster plein de testostérone et de vannes foireuses, car la crétinerie du récit n'a rien à envier à n'importe quel DTV, soit les direct-to-video qui passent en boucle sur les chaînes câblées.
Regarde ça, c'est le soutien aérien. Ils sont tous morts.
Un seul homme peut ordonner une telle attaque. Et j'ai voté pour lui.
Vous êtes fous.
Chers amis chefs d'État, vous contemplez une nouvelle arme de pointe capable d'anéantir 14 fois chacun de vos pays. 15 fois dans le cas de la Corée du Nord, juste en appuyant sur un bouton.
A priori, on peut faire confiance à personne.
Il reste un homme, peut-être.
Général, appelez-moi Joe.
On y va à fond la caisse!
Un conseil d'amis, trouve-toi une autre formule.
Au boulot.
Le président dit que je peux plus commander. Ça m'interdit pas de re-signer comme soldat.
Ah, quel bonheur. Alors, le scénario, il est simple. Après avoir été trahi et désingué par une organisation terroriste, l'équipe des G.I. Joe apprend que le président des États-Unis est un usurpateur. C'est Zartan, méchant transformiste un peu comme dans les X-Men, hein. Déjà présent dans le premier opus, qui prend la tête de Jonathan Pryce, du président. Les G.I. Joe doivent identifier l'ennemi qui, aux surprises, veut détruire le monde pour asseoir son pouvoir. Où les scénaristes vont-ils chercher tout ça ? Ah oui, seul et délaissé par tous, les trois G.I. Joe restants vont demander de l'aide à celui qui est à l'origine de leur corps d'élite, Joe Colton, alias Bruce Willis, tout juste sorti de sa mission périlleuse en Russie dans Die Hard 5. Que dire de plus ? Si vous rangez votre cerveau avant de rentrer dans la salle, vous allez assister à 1h50 d'action non-stop qui se boucle par une ode patriotique à l'Amérique, aussi puérile que cynique. On peut sauver une belle séquence aérienne dans les montagnes de l'Himalaya, ce qu'on aime, c'est vraiment peut-être la meilleure scène du film.
Je pense.
Elle est chorégraphiée à la perfection. Ben, ce moment jouissif, isolé dans un océan de beaufries, rappelle à notre souvenir que le réalisateur, John M. Chu, est un des spécialistes des films musicaux pour jeunes, notamment la série des Sexy Dancers. Enfin, le 2 et le 3 et le 4. Pour le reste, le réalisateur s'en tient au cahier des charges, de l'action, une vanne. Bon. Ces fameuses scènes d'action, d'ailleurs, sont illisibles pour la plupart du temps. Le spectateur est pris dans un maelstrom d'images qui est sans queue ni tête. Pas un plan qui dure plus de 3 secondes. Une tendance pénible à surdécouper la moindre scène qui rend caduque le moindre effort de mise en scène. Je suggère d'ailleurs aux producteurs de ce type de produit de visionner les films hongkongais de John Woo pour qu'ils se rendent compte qu'un long plan séquence de 3-4 minutes peut aussi déboucher sur une impressionnante leçon de cinéma à la fois rythmée et jouissif. Revoyez notamment À toute épreuve en entier pour abandonner l'équation stupide montage, cut égale rythme. Visiblement, hormis de brillants techniciens, il n'y a pas de cinéaste aux commandes. Tiens, je me dis que si un troisième épisode est en chantier, je ne me souviendrai plus du deuxième. Et si je dois à nouveau le chroniquer.
Ouais, mais je t'aiderai pas. Hein, parce que franchement, quand on sort de la séance, on se dit effectivement qu'on a vu une suite d'actions. Alors, il y a des séquences, bizarrement, il me semble qu'il y a des séquences qui sont montrées. Alors, c'est très coupé, mais tremblé, avec une caméra tremblée épaule. Il y en a d'autres, c'est des plans fixes, mais voilà, ultra découpés. Enfin, il a essayé de faire varier, enfin, des petites variations, mais qui, bon, enfin, n'apportent pas grand-chose.
J'ai l'impression qu'ils mettent 6-7 caméras pour filmer en fait une séquence et après tout se passe au montage et peu importe que ce soit compréhensible ou non. Enfin, c'est un peu la méthode des blockbusters actuels qui sont tournés très très rapidement, mine de rien. Et il y a une impression de vite fait de backlash quand même. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne, tous ces films-là.
Et puis bon, effectivement, il y a juste la séquence qui se passe dans les montagnes, sans doute l'Himalaya ou je ne sais quoi.
Sur fond vert. Là,
sur fond vert, évidemment. Ils ne sont pas mis à faire des cascades à 5000 mètres. G.I. Joe est encore projeté dans tous les grands cinémas, les multiplex.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Nous parlons du documentaire de Nicolas Philibert qui sort aujourd'hui, c'est La Maison de la Radio. La Maison de la Radio, c'est 6 mois de tournage, un point de vue subjectif, des choix personnels qui sont relativement représentatifs de ce que c'est que le métier de la radio. La construction d'une narration sur 24 heures, c'est complètement virtuel hein, puisqu'il a pris des émissions un peu partout, qu'elles soient du week-end ou toutes les antennes de Radio France, sauf FIP et Le Mouv. Voilà, et quand on lui demande finalement à Nicolas Philibert, mais pourquoi vous n'avez pas mis ces radios, je pouvais pas tout mettre. Bon, c'est un peu léger, je trouve, mais c'est 1h43.
Surtout qu'il y en a qui reviennent beaucoup, quoi.
Oui, évidemment. Ouais. Voilà, il y a quelques séquences qui reviennent. Il s'est servi donc de personnages hein, pour faire avancer son récit. Notamment une chef de service de l'info et puis une femme donc, qui s'occupe des dramatiques de France Culture. On va écouter Nicolas Philibert qui était présent à Montpellier, c'était cette fin de semaine.
Oh bah dis donc, l'homme retrouvé coupé en deux en Isère est mort d'une balle dans le
dos. Même si je devais raconter l'histoire de quelqu'un qui étrangle sa grand-mère, j'y mettrais quelque chose à moi, même si je n'ai jamais étranglé ma grand-mère.
Un cercueil, finalement, c'est pas aussi remarqué, c'est lourd.
J'ai un peu hésité à me lancer dans ce projet, précisément parce que y a une difficulté au départ, un paradoxe en tout cas, mettre des images sur des voix. Si c'était agi tout simplement de montrer des visages, ça n'aurait pas suffi, au fond. Mais je pense que, au-delà des visages, ce qu'on voit, c'est des gens au travail, c'est des regards, des gestes, une attention, une tension aussi, quelque chose qui est de l'ordre de l'écoute, des gens concentrés sur ce qu'ils font, exigeants, etc. C'est tout ça qui apparaît petit à petit. Il s'agit de dépasser le potentiel informatif des plans. Il s'agit d'aller plus loin que de simplement montrer aux spectateurs qui sont ces gens qu'on entend tous les matins en prenant notre petit déjeuner, les Patrick Cohen et autres stars de la radio. Petit à petit, on va les voir, mais les voir dans un processus, en train de travailler. On va découvrir les gens qui sont derrière, dans l'ombre. On va découvrir des métiers qu'on n'imaginait peut-être pas, une façon de faire qu'on ne supposait pas aussi précise. Je pense à Marguerite Gâteau qui dirige une fiction, à travers qui on découvre à quel point le travail est exigeant, précis. Il faudra monter, il faudra faire un travail de montage pour que la fiction puisse être diffusée, etc. quoi.
Olivier, qu'est-ce qui a gagné ? Le cheval ou le cycliste ? Écoute, tu me dis si c'est marrant, hein. Qui c'est qui avait gagné à la précédente ? C'était le cheval ou le cycliste ?
La radio, c'est essentiellement la voix. Avant qu'Internet ne soit là, je dirais que les animateurs, y compris ceux de la maison de la radio de France Inter, on les voyait pas. Maintenant, il y a des webcams. Bon, on arrive à percer un peu le mystère, savoir qui se cache derrière une voix. Là, comment ça s'est passé ? Parce que, par exemple, Pascal Clark, on entend juste sa voix, vous ne l'avez pas filmée. Est-ce qu'elle a voulu être filmée ? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu être filmées, tout simplement parce qu'ils apprécient peu l'image et qu'ils ont vraiment choisi la radio pour ce côté-là, la voix.
Pour reprendre votre exemple, j'ai filmé Pascal Clark, mais je n'ai pas gardé, j'ai choisi de la laisser off, sachant qu'elle n'était pas extrêmement... elle a accepté d'être filmée, mais sans enthousiasme. C'est quelqu'un qui... j'ai eu l'impression qu'elle le faisait pour ne pas contrecarrer mon projet, mais c'est pas son truc, manifestement. Donc, au fond, à l'arrivée, je l'ai laissé hors champ, si je puis dire. Il y a eu, dans l'ensemble, l'immense majorité des gens que j'ai sollicités ont accepté d'être filmés, très peu de refus. Et encore, ça n'a jamais été des refus catégoriques, mais plutôt des gens qui disaient « j'aimerais autant pas, je suis pas très à l'aise ». Sinon, tous ceux que j'ai sollicités ont voulu jouer le jeu. Après, évidemment, j'ai pas gardé tout le monde, j'ai pas gardé tout ce que j'ai filmé, j'ai fait un travail de montage... et en effet, une grosse partie des images est restée dans les machines. Mais ça, c'est comme ça, c'est toujours comme ça.
Bon, la dernière séquence de cette émission, c'est une minute de solitude. Donc je vous laisse tout seul et vous faites ce que vous voulez.
Bon, moi, t'as pas besoin.
Si, sinon, c'est pas une vraie minute de solitude. Donc, je vous laisse. C'est un moment d'improvisation. Le silence n'est pas autorisé parce qu'on m'a déjà fait le coup.
J'aime bien avoir ça dans la tête.
Le film pousse à écouter attentivement, pousse à se questionner sur les sons, sur les voix, sur les intonations, sur les accents. Il y a beaucoup d'accents dans le film. Il y a plein d'accents. On entend un flamand, on entend... un chanteur espagnol, une chanteuse franco-américaine, Arnaud, en effet, Umberto Eco, etc., une marocaine. Bref, il y a des accents étrangers, des façons, une gestuelle, des façons de parler différentes, des gens qui parlent vite, moins vite, qui laissent des silences, etc. Le film est pétri de ça. Il nous plonge dans cet univers-là. Pour autant, la bande-son, elle est assez simple.
Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça ?
C'était la petite interrogation de Nicolas Philibert. Donc aujourd'hui sort La Maison de la Radio. Voilà, Marine, tu l'as vu aussi?
Oui. Moi, j'ai bien aimé, mais alors vraiment pour des raisons extrêmement personnelles, parce que voilà, ça m'a fait un peu l'effet de la Madeleine de Proust. Enfin, quand on a été bercé comme ça par les voix de France Inter, on a forcément beaucoup de plaisir à les voir en vrai, à les voir en pleine action. Après, justement, j'avais l'impression que c'était un film qui était un petit peu élitiste quand même, parce que le fait que la caméra soit simplement posée, qu'il n'y ait aucune interaction avec les gens que l'on voit, et surtout qu'il n'y ait aucune indication sur les gens qu'on voit, à l'image, ça sous-entend qu'en fait ça ne s'adresse qu'aux personnes qui savent déjà qui c'est finalement. Oui. Donc voilà, aux gens comme moi ou toi qui écoutons ou qui avons écouté France Inter. Donc en ça, je trouve que c'est quand même un film qui est super élitiste, même si beaucoup de personnes écoutent cette radio.
Effectivement, c'est vrai qu'on identifie les voix. Alors il en parle aussi dans cette interview, c'est-à-dire qu'on entend des voix, des accents, et qu'il a mis justement l'accent là-dessus, sur simplement sur la reconnaissance des voix, effectivement, si on est familier de la Maison de la Radio, ou alors simplement de ce que c'est que le métier de la radio et de ce que porte une voix. Voilà, ça peut être juste quelque chose qui traverse tout le film. Mais on voit tous les métiers de la radio, enfin bon, c'est intéressant, enfin pour ceux qui s'intéressent au sujet. La Maison de la Radio, donc, est projetée au cinéma Diagonale à partir d'aujourd'hui.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis, et même saloperie. Hein.
Sur Divergence FM.
Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, vous autres pauvres pêcheurs avez fauté en allant voir Turf, ou encore des comédies espagnoles olé olé dans lesquelles des stewards sodomites se livrent à la fornication. L'heure du repentir a sonné. Guillaume Niclou a ainsi décidé de vous faire expier vos fautes à travers son film La Religieuse, qui vous fera tant souffrir que vous en sortirez purifié. Ainsi, dès le générique, on ne peut plus austère, lettres blanches, fond noir, notes au clavecin, on croit comprendre que l'on ne va pas vraiment être devant Spring Breakers.
Est-il vraiment nécessaire que je m'enferme dans un couvent?
Votre naissance est la seule faute que j'ai commise. Aide-moi à l'expier.
Tu resteras un an de plus.
Je devais sortir au mois d'avril, nous sommes au mois de novembre.
Je sais, tes parents se sont dépouillés pour tes sœurs.
Ils veulent m'enterrer ici.
Vous enterrez. Sachez qu'aucune demoiselle n'est jamais devenue religieuse contre son gré.
Marie-Suzanne Simonin, remettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance?
Non, mon père. Dieu a refusé que je mente.
T'es bien orgueilleuse.
Mais c'est quoi cette mélancolie?
Ne pas avoir la vocation. Qui est-ce?
Sœur Christine, notre nouvelle mère.
Vous avez dérobé à l'économat de quoi écrire?
Déshabillez-la. Entièrement.
Elle m'humilie. J'ai l'impression qu'elles en veulent à ma vie. Tenez. Cachez ça.
De quoi s'agit-il?
Un mémoire pour sortir du couvent.
La procédure pour l'annulation de vos vœux est en cours.
Ainsi, sœur Suzanne, vous voulez nous quitter?
Je veux sortir d'ici!
Moi aussi, je voulais sortir d'ici. Bon, je ne pense pas spoiler un film adapté d'une œuvre de Diderot que nous avons tous lu au lycée. En vous résumant la suite, après avoir appris que son père n'était pas le sien et avoir été enfermé dans un couvent par sa famille qui l'abandonne, la jeune Suzanne atterrit chez la très méchante Louise Bourgoin qui la martyrise avant d'être retirée de ce couvent. Mais elle va tomber de Charybde en Scylla, puisque la nouvelle maison où on la place s'avère être tenue par la trop gentille Isabelle Huppert, qui ne tarde pas à lui faire quelques avances assez déplacées. Autant vous dire qu'à la moitié du film déjà, j'aurais accepté de confesser n'importe quoi pour qu'on me laisse sortir de là, mais j'ai dû suivre ce pénible chemin de croix jusqu'au bout. Alors oui, ça pourrait être le film le plus émoustillant du monde. Un couvent avec des bonnes sœurs lesbiennes qui se crêpent le chignon. Bon, quoique ça a déjà dû être fait, mais je pense que Manu s'y connaît mieux dans ce domaine.
Juste Franco, notamment. Hein.
Voilà, j'en étais sûre. Bon, sauf que ici, les bonnes sœurs en question, c'est Isabelle Huppert et Agathe Bonitzer. Donc une certaine vision de l'enfer. Aussi, Pauline Étienne est quant à elle plutôt parfaite dans son rôle. Elle manque quand même d'un certain charme qui aurait créé chez nous de l'empathie, mais n'est pas Anna Karina qui veut. Or, on ne peut pas reprocher au film d'être académique et d'adopter une rigueur de style en accord avec les souffrances de la vie monacale. En revanche, on trouvera volontiers quelques paresses de mise en scène ainsi qu'une durée trop longue qui donne au scénario une pesante impression de répétition. Au-delà d'une photographie volontairement glacée et dure, l'opposition de l'héroïne est matérialisée par des chants contre chants répétitifs qui fonctionnent comme des mises en miroir, instaurant en fait à l'image cette idée de combat permanent contre le reste du monde. Alors, bien que représentative d'une époque, l'histoire de la religieuse garde un étonnant goût de modernité, érigeant en héroïne une adolescente qui se rebelle contre l'ordre établi et contre sa condition de femme dans un pays dirigé par la religion. L'idée également que l'écriture soit l'instrument de sa libération, au sens propre comme au sens figuré, revêt un sens très fort, malgré que le salut de la jeune fille provienne quand même au final toujours des hommes. Un film donc bon qui est loin d'être mauvais, hein, je vais pas être mauvaise langue, mais il est pas loin d'être insupportable en même temps. Pour vous donner une idée, il y a les feel good movies et La religieuse, c'est un feel bad movie, mais alors complètement, on en sort totalement démoralisé, c'est vraiment une vraie souffrance pendant 2 heures. Ah oui. Malgré qu'il soit pas mauvais du tout.
C'est curieux d'ailleurs que ce soit Nick Lou qui ait réalisé ça, qui est plutôt habitué aux des polars, un peu anard, et qui avait fait son dernier film Holiday, qui était une comédie complètement déjantée à la Mocky. C'est assez curieux comme choix.
Effectivement. Et en plus avec Agathe Bonitzer.
Ah oui, oui, c'est...
Parce qu'Isabelle Huppert encore, oui. Mais Agathe Bonitzer. Donc ça passe toujours au
Diagonale.
Allez, c'est la suite.
Cinérama. Cinérama, je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Bon, bah Marine, je crois que j'ai trouvé plus austère que La religieuse. C'est Alps, un film du grec, Yourgis Lanthimos. Alors, découvert en 2009 par une poignée de cinéphiles avec l'incroyable Canine, qui était un portrait acide et burlesque d'une famille qui désapprend un langage familier et d'un père, du coup, qui éduque ses enfants comme des chiens, au sens littéral. Le grec Yorgos Lanthimos s'inscrivait alors comme un des grands espoirs du cinéma, on va dire grec, mais européen aussi, à venir, au même titre qu'un Palfi, Giorgi Palfi.
Ah oui, le Hongrois.
Il y a des similitudes entre les deux cinéastes. Hélas, Alps déçoit un peu, même si on retrouve un penchant pour l'absurde décalé, un talent évident pour mettre en scène des situations scabreuses et insolites. Mais le système du grec s'effondre assez vite, car une fois son dispositif en place, il n'a plus grand-chose à dire. Pourtant, le sujet est plutôt prometteur. Une mystérieuse organisation, Alps, en fait c'est Alpes en français, ça correspond bien aux les Alpes. Donc cette organisation s'est fixée la mission d'aider des gens à accepter la disparition des proches. Ainsi, le cinéaste se concentre surtout sur une infirmière qui propose à des parents de remplacer leur fille pendant quelques semaines afin de soulager la douleur. Le pitch est intriguant mais n'aboutit au fond qu'à un petit film purement théorique, froid et désincarné. Reproche que l'on pouvait parfois faire à Canine, sauf que pendant une bonne heure, le spectateur restait constamment fasciné par le comportement étrange des personnages. Dans Alps, tout est donné en clé au bout d'un quart d'heure et on anticipe sans peine ce qui va arriver. Le non-sens paraît un peu fabriqué dans ce théâtre de l'absurde qui comporte néanmoins son lot de bonnes scènes, notamment tous les moments où les employés d'Alps endossent le rôle d'un défunt et rejouent de façon assez maladroite et distanciée des scènes déjà vécues. Ça donne des moments assez bizarres, hein. On dirait des mauvais acteurs qui interprètent comme ça des scènes un peu tragiques, un peu ou anodines de la vie quotidienne. Enfin, c'est très très curieux. Enfin, ces instants sont à la fois drôles et très morbides et ça constitue vraiment le meilleur du film. Le film finit aussi in extremis par toucher. L'infirmière va finir par perdre les pédales et vivre la vie des autres comme une addiction jusqu'à la démence. Une légère émotion finit par poindre dans un océan de glace. D'ailleurs, Lanthimos filme toujours les rapports sexuels comme une action mortifère, sans joie et sans plaisir. Alors Alps, en dépit de ses qualités formelles évidentes et d'un beau personnage central, s'enferme un peu dans un discours comportementaliste vain et froid qui n'apporte pas grand-chose et surtout ne surprend pas. Alors revoyez de toute urgence, ou voyez-le d'ailleurs, Canine, bien plus addictif que ce triste film un peu abscon et convenu quand même. Enfin, c'est à voir, mais moi j'ai trouvé ça décevant par rapport à Canine. Je pense que ceux qui n'ont pas vu Canine risquent quand même d'être assez surpris par le ton extrêmement, quand je dis glacial, c'est peu de le dire.
Oui, mais donc avec des scènes de sexe morbide. Donc après avoir vu La religieuse, allez voir Alps. Et n'oubliez pas aussi de prendre un pistolet chargé avec une balle au cas où vous ne puissiez pas résister voilà, à la tentation
parfois,
de la mort.
C'est drôle parfois.
Oui, mais distancié, voilà, c'est ça. Allez, on va changer de sujet.
Cinérama sur Divergence FM.
quand on tente de se renseigner sur Samsara, on pense d'abord qu'on va tomber sur le descriptif d'un parfum. Mais non, il s'agit bien d'un film, le deuxième de Ron Frick, à qui l'on doit Baraka, qui, lui, ce titre de film fait penser à une lotion après rasage, mais qui, là aussi, est bien un film documentaire, évidemment. Donc, quand on finit par trouver des infos sur Samsara, on lit ceci. J'ouvre les guillemets, tourné dans 25 pays durant 5 ans, Samsara explore les merveilles de notre monde. C'est un voyage extraordinaire, une méditation sans parole. On ferme les guillemets. Alors vu comme ça, on comprend que c'est un Yann Arthus Bertrand, peut-être sans moustache, qui a pu prendre l'hélicoptère 5 années durant pour nous ramener des images à couper le souffle, histoire qu'on médite un peu. Alors son précédent documentaire, donc Baraka, était parsemé de belles images et exprimait la spiritualité, la compréhension d'un monde où hommes et femmes écoutaient leur cœur entrecoupé d'images plus dures, montrant la misère et tout ça sur la musique de Dead Can Dance. Alors c'était beau, un peu frontal, un peu naïf, un peu manichéen. Samsara, c'est la même recette, une image impeccable en 70 mm, des paysages renversants, soit parce qu'ils témoignent d'une histoire riche, soit parce qu'ils sont minérales et brutes. Alors ces images, on les penserait piquées dans toutes les offices de tourisme des pays visités. Et puis il y a les hommes, ceux qui vivent de spiritualité, effectivement. On voit des moines qui construisent patiemment une figure avec des grains de sable multicolores. Et puis il y a d'autres hommes qui vivent d'à peu près rien, des détritus lâchés par d'autres, qu'on voit déambuler en voiture, en vitesse accélérée, au-dessus de Los Angeles, ou d'autres encore africains, on imagine, aux visages étranges, aux mœurs singulières, qui vivent d'on ne sait quoi au début du film et dont on apprendra, eh bien qu'un élément au potentiel dramatique nous relie à eux. Alors il y a tout ça dans ce Samsara, des extrêmes qui se côtoient, le calme et l'agitation, l'opulence et la pauvreté, le naturel et l'artificiel, la paix et puis la guerre, parce que le film nous transporte dans 25 pays au gré de séquences plus ou moins longues. On peut oublier l'apparent manichéisme du propos. Et il vaut mieux l'oublier et se faire sa propre histoire. Alors l'avantage, c'est qu'il est tourné sans dialogue, mais avec beaucoup de musique, voire peut-être beaucoup trop. Voilà, donc c'est un peu l'ambiance, effectivement, Marine. Bon, après, il peut y avoir aussi des petits sons technoïdes à un moment, parce qu'il y a une chorégraphie de prisonniers. Enfin, il y a des images étonnantes, et parfois, il adapte la musique au contenu de l'image, mais ça ressemble souvent quand même à ça. Hein. Voilà, bon, il faut quand même se le fader. Alors, il n'empêche, Samsara, par un montage simple, en apparence à défaut de nous ravir complètement, peut nous étonner, nous subjuguer. Il y a, qu'il s'agisse des hommes ou des lieux choisis, des images impressionnantes. Alors, ça n'en fait pas des images justes, évidemment. Mais si le propos est simpliste, il se dégage de ce documentaire, volontiers New Age, en décalage complet avec l'esthétique de l'époque, un effet de calme et de sérénité propice à l'apaisement. Et puis donc, c'est un documentaire sans voix humaine, finalement. Ça se regarde très bien et c'est quasiment l'opposé hein, de Nicolas Philibert qui fait reposer donc son documentaire sur la voix, sur les sons et ainsi de suite. Là, non, absolument pas. C'est l'image qui prime avec une espèce de décor musical et puis simplement eh bien, du son pris dans la nature la plupart du temps. C'est seulement au Gaumont Multiplex, ce Samsara donc de Ron Frick. Et s'il n'y a qu'une seule séance, et c'est à 17h45 et ce sera sans doute la dernière semaine, je pense.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et nous allons passer bien à l'agenda. Demain, le jeudi 4 avril, c'est le Ciné-Club Jean Vigo. C'est La Ligne Générale, allons-y. Film de 1929 de Eisenstein, que tout le monde a vu ici.
Oui.
Bah oui. Le vendredi 5. Ah oui, le réveil est... pas facile aujourd'hui. Vendredi 5 avril, soirée Viva Italia, peinture, antipasti et cinéma. C'était au Ciné Mistral de Frontignan. Donc ça commence à 18h30, mais la projection du film Schiala, sans doute, de Francesco Bruni, que j'ai pas vu, c'est à 20h30. Le lundi 8 avril à 14h, c'est Carmen de Francesco Rossi, c'est au Diagonale. Le festival hybride commence aussi ce lundi 8 avril au Diagonale à 20h avec Goodbye de Schlondorf. Goodbye Schlondorf, pardon, correspondance sonore d'une guerre falsifiée. Et puis, il y a aussi une avant-première à 21h30 en Suisse, c'est Rock de Casbah de Yariv Horowitz. Le mardi 9 avril à 18h à l'Utopia, il y a une fenêtre sur le cinéma expérimental. C'est une séance conçue et animée par les étudiants en cinéma de Paul Valéry, en présence d'un enseignant qui est spécialiste du cinéma expérimental. Donc la première partie est à 18h et la seconde partie est à 20h toujours à l'Utopia, avec cette fois-ci les figures contemporaines du cinéma expérimental. Voilà, donc c'est quand même... Enfin, c'est assez rare, je trouve, le cinéma expérimental dans les cinémas.
Bah, je le sais plutôt, ouais, dans les galeries, généralement.
Oui, c'est clair. Et ben voilà, c'est ainsi que s'achève Cinérama.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà. Et la semaine prochaine, eh bien, on se retrouvera sans doute pour parler de Jess Franco et de Soderbergh.
Et tout de suite après, à suivre l'émission 24 notes secondes qui sera consacrée cette semaine au grand classique du cinéma.
Ouais, donc c'est le tome 1. Après, il y a 10 tomes de prévu.
Il y en a 25, genre, en ouais. fait. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.